passage en fait hein, pour arriver en France. Il y a le Maroc, il y a l'Espagne, et il y a ensuite la Libye et l'Italie ensuite, quoi.
Bon, on reprend là où on s'était arrêté sur la dernière émission. Vous êtes dans Sur quel pied penser. On parle aujourd'hui des MNA, des mineurs non accompagnés, avec Lionel qui est éducateur spécialisé, coordinateur de parcours de migrants mineurs non accompagnés. Son taf, bah, c'est de les aider au quotidien, de les accompagner sur les démarches administratives et de les accompagner sur les rendez-vous pas toujours simples avec la justice. On reprend là où on s'est arrêté sur la dernière émission, on revient un tout petit peu en arrière, on parle de comment ils arrivent ici, comment ils sont enrôlés en fait. Parce que ce qu'on apprend dans cet entretien avec Lionel, c'est que souvent, c'est pas une volonté de leur part de venir. Les passeurs, le système est tellement bien organisé qu'en fait, on les incite à venir ici à la recherche d'un Eldorado que eux n'ont pas forcément demandé. Alors on reprend là où on en était, vous êtes dans Sur quel pied penser. Si jamais vous avez loupé le dernier épisode, vous pouvez le retrouver en podcast Sur quel pied penser sur la quasi-totalité, alors pas la quasi-totalité mais en tout cas celle qui marche le plus, des plateformes dédiées au podcast. Deezer, Spotify, iTunes ou encore Apple Podcast ou sur l'audioblog d'Arte Radio, c'est là où on est hébergé réellement. Sinon sur le site lescoutilles.eu.
Les gamins qui ont des difficultés, des problèmes d'ordre psycho, qui n'arrivent pas encore à complètement se mettre dans leur projet, il y a des fois des gamins qui ne savent même pas pourquoi ils sont arrivés jusqu'ici. Ils ont suivi hein, en fait quelqu'un. On leur a demandé de monter. C'est souvent aussi de la main d'œuvre. C'est les passeurs en fait qu'ils ont recrutés et sans vraiment qu'ils sachent vraiment où ils vont aller. On leur raconte des choses aussi. Il y a toute une fantasmagorie aussi sur l'Europe, la France. L'argent tombe du ciel, tu vas te pencher, tu vas ramasser l'argent. C'est rigolo, mais on peut en rigoler comme ça. Hein, mais au pays, les mecs qui les enrôlent, en fait, parce que c'est souvent des oncles, c'est souvent des gars le vieux du village, le mec un peu, voilà, qui leur dit, bah, tiens, il faudrait que tu partes. Et donc, en fait, ces mecs-là ont des contrats avec les passeurs, hein, clairement. Et il y a des gamins qui arrivent ici, ils savent pas trop pourquoi ils sont là. Et puis ils ont eu aussi un passé au niveau familial. Ils ont souvent des situations de rupture avec leur famille au pays pour diverses raisons. Des gamins où il y a eu plusieurs mariages, où le gamin du premier mariage n'est pas toléré, donc il est rejeté par la famille. Donc le garçon décide de partir. Moi, j'accompagne pas mal d'orphelins aussi, hein, des gamins qui n'ont plus de parents. Donc voilà, il y a tout ça en fait. Ces gamins-là arrivent. En plus de leur parcours, ils arrivent avec tous leurs problèmes, quoi. Et on se rend compte qu'ils ont une faculté de résilience. Alors bon, résilience, c'est un bien grand mot, hein. Si Rumi en parle mieux que moi, mais oui, il y a une forme de résilience, d'essayer de mettre de côté ces problèmes-là pour arriver à développer un parcours d'insertion très rapide. Parce que eux, ils ont cette chape de plomb en fait hein, sur la tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des papiers rapidement.
Qu'est-ce qu'ils fuient ? Mais en fait, ils fuient pas forcément, quoi. On les incite à partir. Et là, c'est quoi ? C'est les passeurs qui veulent faire de la thune et parce qu'un passage.
C'est ça. Moi, je pense honnêtement. Alors après, je suis pas assez calé là-dessus, mais de ce que je vois et de ce que je ressens, dans ce que racontent les jeunes sur leur parcours. C'est qu'effectivement, il y a toujours une histoire d'un oncle ou de quelqu'un qui les accompagne. Alors des fois, c'est la famille, hein, ils vont partir avec effectivement un plus grand qu'eux. Puis souvent, c'est une autre personne du quartier qui va les enrôler. Et je crois qu'effectivement, il y a des contrats entre des passeurs et certaines personnes qui sont dans les pays pour envoyer un quota de personnes en fait partir, quoi. Tu vois. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi des gamins qui partent vraiment parce qu'il n'y a pas d'avenir pour eux au pays, quoi. Parce qu'ils sont rejetés de la famille, parce qu'ils ont des, on peut en parler aussi, ils sont rejetés de la société pour des histoires de comment dire, de, parce qu'ils sont homosexuels par exemple, parce que on reçoit aussi de plus en plus de filles. On a là à l'heure actuelle, on a reçu actuellement là, on accueille maintenant 8 filles. Ça n'était jamais arrivé au sein de la structure, qui sont en général des jeunes filles originaires de Côte d'Ivoire et qui viennent parce que les mamans en fait ont mis de l'argent de côté pour les envoyer en Europe pour qu'elles évitent ou le mariage forcé ou l'excision par exemple aussi. On a des gamines qui arrivent qui sont passées par des réseaux de prostitution en Italie par exemple. On a des gamins qui ont été mis en esclavage en Libye. La Libye, à l'heure actuelle, c'est un no man's land, c'est infernal là-bas. Il se passe des choses atroces. Et les gamins qui, alors il y a deux passages en fait hein, pour arriver en France. Il y a le Maroc via l'Espagne, et il y a ensuite la Libye par l'Italie ensuite, quoi. Et souvent la Libye, les exemples de jeunes qui sont passés en Libye te racontent des choses absolument incroyables, quoi. Ils ont été mis en esclavage, ils ont été battus, ils ont été souvent en fait. Ils font 2-3 mois d'esclavage pour pouvoir payer leur passage en Italie, tu vois. Donc c'est ici ils deviennent esclaves. Ça va être le patron après pour qui ils bossent, qui va payer ce passage-là. Et on a des gamins avec des marques physiques. Moi j'ai eu des jeunes, voilà, avec des marques de cigarettes écrasées sur eux parce que leur geôlier, voilà, était dans de la torture, quoi. Donc voilà, faut savoir que ce qu'ils vivent déjà pour arriver jusqu'ici, c'est juste insupportable. Ils arrivent à ils arrivent à vivre avec. Et quand ils arrivent ici, au moment où ils font tous les efforts et au moment où ils sont vraiment ils vont arriver vraiment dans la logique d'avoir des papiers et de s'intégrer. Parce que la plupart, ils veulent vraiment rester en France. C'est pas des jeunes. On s'imagine aussi souvent que ce sont des jeunes qui sont là pour envoyer du fric à la famille. Alors certes, il y a cet impératif économique. Il y en a qui envoient régulièrement l'argent aux familles, mais c'est souvent pour aider la famille parce que un parent est malade, parce que les soins là-bas sont très chers. Enfin voilà, il y a pas, c'est pas uniquement pour faire vivre une famille au pays, quoi.
Oui, nous aussi on est dans la fantasmagorie. On est ouais. Chacun dans des stéréotypes, quoi.
Ah, complètement, complètement. Je crois qu'on s'imagine des choses aussi nous en tant qu'Européens ou Français sur le pourquoi de la venue de ces jeunes-là. Faut savoir que non, effectivement, moi, les jeunes, en tout cas, avec lesquels je bosse, beaucoup fuient une situation familiale ou une situation économique qui leur était pas favorable au pays, quoi. Alors, certains sont mandatés, mais je me rends compte que c'est très peu, finalement. Et beaucoup sont là pour vraiment commencer une nouvelle vie, quoi, véritablement.
Et en fait, ce que tu nous racontes, c'est que c'est un système hyper bien organisé, quoi.
Bien sûr, ouais. Bien sûr que c'est un système organisé. Mais voilà, ça répond aussi. Ça répond aussi, si on regarde bien, finalement, voilà, on est à l'heure actuelle dans une situation économique où il y a du travail. On est un peu comme dans les années, je dirais, après la guerre, là, quand les premières vagues de migrants sont arrivées pour pallier au fait que les Français ne voulaient plus travailler dans certains secteurs. On s'en souvient, hein, voilà, les gens qui sont arrivés, sur les Portugais ou les Algériens ou ces personnes-là qui sont arrivées pour bosser dans le bâtiment. Là, à l'heure actuelle, c'est ça aussi. Hein, on a beaucoup de gens qui viennent pour ça. Et voilà. Et en fait, il y a une réelle volonté de ces jeunes-là de vivre en France, dans le sens où ils ont vraiment envie de s'intégrer. Ils sont pas dans un rejet ou dans un communautarisme en fait. Hein. Alors certes, ils vivent. Évidemment, le lien qu'ils ont entre eux, c'est cette communauté au quotidien où ils se retrouvent beaucoup entre eux. Mais énormément de ces jeunes-là fréquentent des populations locales. Ils participent nous on les met en lien aussi avec différentes associations, ils participent aussi à des projets sur le territoire, enfin ils sont intégrés, quoi. Et moi j'en connais aucun qui veut rentrer au pays, ils sont pas là pour voilà, ils veulent vraiment rester en France et s'installer. Ils fuient aussi un modèle patriarcal qui leur convient pas. Il y a des jeunes qui n'en peuvent plus de vivre dans des sociétés où effectivement leur père il a 5 ou 6 femmes, ils fuient aussi ce système là ils ont envie aussi d'autre chose d'un point de vue socioculturel, on va dire.
C'est ça qui est ubuesque dans leur histoire, c'est que ils viennent avec l'envie de travailler dans des secteurs où il y a personne, on les aide, on les amène au collège,
ah oui,
parce qu'ils sont mineurs, au collège, on les amène dans des contrats d'apprentissage, et puis une fois que c'est fini, bah on les fout dehors, quoi. Et c'est même pas
c'est
fini,
ça.
Quoi, c'est une fois qu'ils sont majeurs et qu'on les retrouve quelque part, quoi.
C'est ça. Et alors là, si on veut taper sur l'argument économique, on peut aller voilà pour dire l'incohérence en fait, l'incohérence de tout ça. C'est-à-dire que en fait un mineur non accompagné, ça coûte alors on a eu une période là, le Front National qui nous avait mis des chiffres absolument hallucinants. Moi je peux te dire combien ça coûte. Nous c'est simple, l'association pour laquelle je travaille, on reçoit 53 euros de prix journée pour un jeune en fait, sachant que pour légalement dans le même type de jeunes d'origine française qui est accompagné par exemple sur une MEX, c'est le même statut, hein. Légalement ils ont le même statut. Ben lui il va être aux alentours de 180 voire 210 euros par jour, tu vois.
Ouais.
Donc c'est te dire comment dire, déjà l'État, ce qu'ils sont prêts à donner pour ces jeunes-là. Donc, avec le peu de fric qu'on a, parce qu'on a vraiment, on est, alors moi je dis souvent qu'on est un peu le discount du social, parce que malheureusement, effectivement, quand on voit l'argent qu'on reçoit par jour, c'est dérisoire, quoi, mais vraiment dérisoire. Mais on arrive à faire quand même des choses pas trop mal, je trouve, avec ce peu de fric, tu vois. Mais on bosse dans des conditions qui sont à flux tendu constamment, quoi. Alors en fait, si on calcule 50 euros de pigeonnée, ça fait à peu près 17 000 euros par an pour un jeune. Donc ça veut dire que l'État investit 17 000 euros par an pour un jeune. Donc de 16 ans jusqu'à ses 18 ans, voire plus loin, parce que souvent on accompagne avec les contrats jeunes majeurs derrière. Donc ça maintient les droits en fait qu'ils ont de 16 à 18 ans. En fait, on continue à les accompagner via les contrats jeunes majeurs. Donc des fois jusqu'à 20 ans, parce que les papiers n'arrivant pas, on peut pas les sortir du système, tu vois. Et donc l'État balance du fric comme ça, ce qui pourrait être très bien. L'État finance les apprentissages, puisqu'il reverse aussi une somme d'argent au patron. L'État finance les CFA. Et à la fin, cette main-d'œuvre qu'on a financée, formée, qui peut travailler, eh bien, on la fout dehors pour une histoire de papier. Voilà. Donc c'est quand même hallucinant, quoi. C'est hallucinant. On est dans une situation où on se dit, alors si le contribuable français était un peu au courant de tout ce qui se passe aussi, il se dirait, mais où va mon fric, quoi? Tu vois, la vieille réaction réac, quoi. On va dire, mais où va mon argent, quoi? Et ben là, ouais, en l'occurrence, voilà, encore un exemple d'argent, alors qui est pas gaspillé, dans le sens où ces jeunes-là ont accès quand même à un diplôme qui pourra toujours leur servir, hein, même dans d'autres conditions. Mais en attendant, nous, on se tire une balle dans le pied, quoi, clairement. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On forme de la main-d'œuvre, ils sont efficients, ils peuvent bosser, mais pour une histoire de papier qu'ils ont reçu, voilà. Allez hop, tu rentres chez toi, quoi. Tu rentres chez toi.
Ouais, parce
Voilà.
qu'il y a un amalgame entre les. Enfin, un amalgame, je sais même pas, en fait, entre ce qu'on va appeler les sans-papiers et les jeunes qui arrivent et qui sont formés et qui avancent
Exactement.
avec leur vie, ouais.
Alors, il y a deux phénomènes. On peut aussi s'attarder sur ces nombreuses vidéos qu'on voit, soit BFM ou CNews, qui nous abreuvent toute la journée de ces jeunes délinquants. Alors, les jeunes délinquants mineurs MNA, comme on peut en voir notamment sur les grosses périphéries, enfin les grosses villes, hein, c'est-à-dire Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, qui effectivement sont dans la rue. Alors déjà, c'est des jeunes qui sont là parce que il n'y a pas assez de structures d'accueil pour pouvoir les accueillir, pour les mettre à l'abri. Donc effectivement, ils se retrouvent à la rue. Il y a déjà ce premier principe-là. Donc c'est déjà un manque de l'État de ne pas pouvoir les accueillir. Et la deuxième chose aussi, c'est que finalement, il y a des jeunes qui sont accueillis, comme nous, par exemple, dans nos structures, et qui, au bout d'un moment, finalement, quand ils n'ont pas des papiers, ils peuvent plus rien faire, ils se retrouvent en dehors du système, et là, de nouveau, ils se retrouvent dans la rue, et là, ils se retrouvent aussi face à la délinquance, parce que pour survivre, eh ben, ils sont obligés d'utiliser aussi, des fois, ce moyen-là, quoi. Donc, voilà, on est, dans les deux cas, on est quand même face à une défaillance de l'État, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent pas les moyens pour l'accueil, et ensuite, ils mettent pas non plus la volonté pour pouvoir mettre en place les papiers pour que ces gamins-là puissent travailler correctement.
Juste pour casser un peu les idées reçues, les 53 euros dont tu parles, dont ils
Ouais.
sont bénéficiaires, c'est pas 53 euros qu'on leur file tous les jours pour
Je vous
travailler.
préviens, s'il y a la guerre, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir dans mes affaires, dans mon logement, dans ma suite. Il y aura deux, trois déserteurs, des polissons réformés, qui chanteront la main au cœur, des chants d'Ukrainiens bourrés. Là, 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 là. Et s'il y a révolution, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir l'habitation qui entoure ma suite. Il y aura de bonnes préparations, des cocktails façon maison, des tire-flammes et des lance-cœurs et des pistolets de porte-bonheur. Mais faudra pas venir pleurer si après vous êtes tous tués et que nous-mêmes emprisonnés, on soit tous en train de chanter. La la la, la la la, la 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 la. Et je vous préviens que s'il y a combat, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir en bas de chez moi, dans le jardin de ma suite, les cheveux longs pour armement, des slogans à tout bras le vent. Faites l'amour le plus souvent, et pas la guerre évidemment. Mais faudra pas venir pleurer si après vous êtes tous tués et que nous-mêmes emprisonnés, on soit tous en train de fumer. La la la, la la la, la 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 la. Et je vous préviens que s'il y a manif, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir là où j'habite, dans ma maison sans calife, où il fait bon préparer des chants pour manifester, avec des paroles anarchistes et des refrains je m'en foutisse. Mais faudra pas venir pleurer si c'est bien ensoleillé et qu'on préfère picoler à la terrasse d'un café. La la la, la la la, la 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 la. Et s'il y a une trahison. Cherchez pas plus loin que ma suite, prenez l'adresse de ma maison et rendez-y vous très vite. Moi et mon frère, on est espions, et mes sœurs, c'est des bouffonnes. Les secrets d'état mon fion, contre un coup à boire, on te donne. Mais faudra pas venir pleurer si on vous ment à volonté et pour fausse information, vous soyez tous dégradés. La 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 la. Et même si remontre-temps, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir l'appartement qui était là avant ma suite. Y aura bien sûr toutes les sorcières, les crânes tondus, les juifs allemands, Jésus, Judas et mon grand-père, celui qui a déserté lâchement. Mais faudra pas venir pleurer si votre époque est ruinée et qu'on puisse lire notre vie dans toutes vos encyclopédies. La 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 la. Viens qu'il y a la paix, arrêtez-moi tout de suite. Venez voir dans le palais qui orne ma suite. Il y aura tous les clandestins, les honnards et les cousins, des matelots anarchistes et des pédés trapézistes. Mais faudra pas venir pleurer si on est tous en bonne santé et que dans votre dictocratie on y fout de l'anarchie.
C'est un peu les idées reçues. Les 53 euros dont tu parles, dont ils sont bénéficiaires, ce n'est pas 53 euros qu'on leur file tous les jours pour qu'ils aillent vivre.
Pas du tout. Pas du tout. Les 53 euros pris journée, c'est ce qui sert à financer la structure, les éducateurs, le personnel, les frais qui sont liés au fonctionnement, les véhicules, les déplacements, l'administratif, enfin voilà, tout ce qui est lié au fonctionnement de la structure, en fait. À la location des appartements dans lesquels on les loge aussi. Parce que ces jeunes-là, en fait, sont hébergés dans un premier temps. Jusqu'à leurs 18 ans, ils sont hébergés. Ensuite, on leur demande de participer financièrement au loyer, alors de manière très, très légère, hein, c'est-à-dire qu'on leur demande 10% de leur salaire, en fait, pour déjà les mettre face à la réalité de ce que va être un loyer quand ils sortiront, de ce que... Voilà. Le problème étant qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe... Alors, pendant le confinement, on a eu effectivement une perte de vitesse dans les arrivées, ça s'est calmé parce que de fait il y a eu la fermeture des frontières, voilà, on nous a même dit au niveau du département, vous aurez des fermetures de postes parce qu'il y aura moins de jeunes maintenant, et puis on se rend compte que là depuis la fin du confinement c'est reparti à 200 à l'heure, et à l'heure actuelle en fait ce qui se passe c'est que nous notre boulot en fait dans ma structure c'est de faire sortir les jeunes du dispositif, qu'ils aient leur papier, du travail et un toit en fait, tu vois le truc est assez simple quoi, sauf qu'à l'heure actuelle comme ça, souvent ils ont du boulot, souvent ils ont un diplôme, mais ce qui se passe, c'est comme ils n'ont pas de papier, eh bien, ils ne peuvent pas prétendre à un appartement autonome, parce que pour avoir un appartement autonome, il faut un titre de séjour. Donc tant qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas sortir. Ils se retrouvent à ne pas pouvoir passer leur permis de conduire, parce que là aussi, il faut un titre de séjour, ce qui les empêche aussi des fois pour trouver du boulot, parce qu'ils ont besoin d'être mobiles. Et du coup, comme on ne les fait pas sortir, parce qu'on ne peut pas les foutre à la rue, en fait, clairement, mais derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que les arrivées continuent et que là, on commence à être saturé, quoi. Ça commence à être saturé, et le département qui jusque-là jouait le jeu dans les contrats jeunes majeurs, quand il y avait des situations qui n'étaient pas encore totalement équilibrées pour le jeune, en fait, là, ils nous disent, mais on peut plus continuer les contrats jeunes majeurs, parce que on a plein de jeunes qui arrivent derrière, il faut que vous sortiez des jeunes du dispositif, donc en fait, on va faire ce qu'on appelle des sorties sèches, c'est-à-dire que des fois, on va sortir des gamins du dispositif, sans qu'ils aient toutes les clés en main, quoi, en fait, véritablement, quoi. Et c'est là qu'après, ça peut être plus compliqué pour l'accès au droit commun, où c'est des jeunes qui vont se retrouver en difficulté derrière parce qu'il n'y a plus personne pour les accompagner.
Oui, parce qu'en fait, ils ont de quoi bosser, ils ont le savoir, ils ont le réseau, mais ils ont un papier, quoi.
Exactement. Qui bloque pour tout un tas de trucs, quoi.
De leur donner. enfin refusent ou galèrent à leur donner quoi.
Ouais, alors on a bon à l'heure actuelle au niveau de la préfecture de Charente-Maritime, il y a eu aussi un renouvellement du personnel, du mouvement. Ils en ont profité pour pas renouveler des postes en fait. Là aussi on est, tu vois, là aussi, c'est-à-dire que sur 6 personnes qui travaillaient, ben ils ont mis que 2 personnes à l'heure actuelle. Donc je te raconte pas, ils reprennent tous les dossiers, c'est des gens qui arrivent de l'extérieur. Je leur en veux pas, hein. Ils sont aussi submergés. Mais finalement, on se rend compte que de pas mettre aussi, de pas renouveler les fonctionnaires, ça crée de la lenteur en administrative. Et là aussi, ça pourrit les situations, quoi, en fait, clairement.
Voilà, du coup, la solution pour que ça avance, ce serait quoi ? C'est ce fameux projet de loi, là, sur les métiers en tension
Ce projet de loi, il faut voir aussi, parce que, alors, peut-être qu'il va donner temporairement un titre de séjour d'un an, mais il faut savoir qu'après, derrière, quelles vont être les conditions pour pouvoir renouveler un titre de séjour. Parce qu'en fait, le premier titre de séjour est toujours d'un an, et ensuite, tu peux renouveler pour avoir 4 ans, et ensuite demander aussi la naturalisation française. On fait aussi ces dossiers-là, nous, pour les jeunes. Mais est-ce que derrière, ça va pas être parce que t'as plus de contrat, tu t'en vas, parce que t'es dans une période d'attente où tu pourras avoir un contrat qui, tu vois, où tu te reformes, ou bon, qu'est-ce que ça va être, en fait, les conditions? C'est simple. C'est un peu arbitraire, quoi. On sait pas trop comment ça va être. Non, moi je crois qu'il faut arrêter de courir derrière les papiers et les gamins ils font venir, alors souvent ils remettent en cause des papiers qui ont été fabriqués dans des administrations. Il y a pas longtemps, l'exemple de deux jeunes, ça fait, tu vois, je te donne voilà un exemple concret, hein. Deux jeunes que de Guinéens que j'accompagne depuis 2 ans, les deux ont déposé leur demande de titre de séjour en... L'autre fois, je regardais, c'était hallucinant. En fait, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. En mai 2021, on dépose avec les 6 fiches de paie, tous les papiers, machin. On est en attente du passeport. Parce que la Guinée, pendant un moment, ne fabriquait plus de passeport. Donc, pour le premier titre de séjour, ils autorisaient les gamins à avoir un certificat de non-délivrance de passeport. Et en général, ils donnaient le titre de séjour. Ces gamins-là, en fait, ils ont signé, ils ont déjà renouvelé 6 récépissés. Ça veut dire que depuis un an et demi, ils ont toujours pas eu leur titre de séjour. Et là, l'autre fois, alors, au mois de juin dernier, les deux, plus de renouvellement de récépissé, on demande des rendez-vous, ça vient pas. La préfecture, ça patine pendant un bon moment. On a finalement un rendez-vous au mois d'octobre. Alors, entre temps, ça veut dire que les gamins, il y a des contrats de travail qui leur sont passés sous le nez parce qu'ils avaient pas de récépissé, par exemple. Ils ont pas eu le droit au chômage. Des gamins qui ont eu le CAP, hein. Des gamins qui ont eu le CAP dans leur partie. Donc finalement, ils ont un rendez-vous pour renouvellement de récépissé, c'est le 5e. Et là, on leur demande des nouveaux papiers, des extraits d'actes de naissance. Ça fait un an et demi qu'ils étaient en vérification à la DZPAF. Pendant un an et demi, j'ai demandé, j'ai pas arrêté de les harceler de savoir où étaient ces papiers. On m'a dit, ils sont en vérification. Un an et demi pour qu'on leur dise, renvoyez-nous des nouveaux papiers, quoi. Alors pour faire venir des nouveaux papiers du pays, ça coûte une blinde, c'est très long. Eux, à l'heure actuelle, ces gamins-là, ils ont plus aucun contact avec leur famille. Donc ils savent pas comment ils vont pouvoir faire ces papiers. Ça fait un an et demi que c'est comme ça, quoi. On n'aurait pas pu leur dire à un moment. Et alors quand tu vois, moi je suis allé, quand tu vois ce qu'ils te disent sur les papiers, alors effectivement, ils te disent que le juge qui a tamponné le papier au moment où l'extrait de naissance a été fait, il était plus en, c'était plus lui le juge en fait. Faut savoir qu'en Guinée, il y a eu 3 coups d'État en l'espace de 2 ans. Donc effectivement, l'administration ça tourne. Le tampon avec, en fait, c'est des tampons avec le nom du juge déjà, tu vois. Donc le mec, ça se trouve, il y a un nouveau juge qui est arrivé, mais ils n'ont pas changé le tampon parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire. Un autre gamin, c'était pour une histoire d'article du Code civil qui avait été changé en juin 2021 et qui n'était plus le même au moment où... enfin, je veux dire, et même les administrations locales ne sont pas au courant de ces changements. Donc ça se fait dans des administrations au fin fond, des fois dans des endroits où ils ont peu de moyens. Alors des fois, même la DZPAF, ils prennent en compte la qualité du papier, quoi. Non mais attendez, quoi. Qualité du papier, quoi. Faut voir où est-ce qu'ils font. Ils ont des imprimantes. Enfin, des fois, c'est dans des conditions de. Et voilà. Et voilà sur quoi s'appuie l'administration française pour dire que les papiers sont pas bons. Donc, on leur demande de renvoyer des nouveaux papiers, quoi. Et ça va être une galère pas possible. Alors que le gamin, il vient de signer un nouveau contrat d'apprentissage en peinture. J'en ai un autre qui galère grave parce que justement, il a pas ses papiers là, qui n'a pas de travail. Ben, tu vois, c'est juste incroyable comment ces gamins attendent pendant des siècles et des siècles pour finalement se retrouver de nouveau à refaire des démarches.
Et c'est dû à quoi? C'est une, une volonté de les faire galérer pour les faire repartir, ou alors c'est vraiment une vision européenne de comment devrait marcher une administration et sans voir vraiment ce qui se passe là-bas.
Ouais, je pense que c'est il y a deux facteurs. Il y a une vision, je pense qu'il y a une impulsion de l'État déjà, et il faut le dire. Voilà, moi on l'a senti. Hein, très franchement, on l'a senti à partir de septembre 2021, quand je te dis quand Darmanin est arrivé dans ses fonctions, là on a senti vraiment une volonté de ralentir tous les trucs. Et puis le deuxième phénomène, mais là c'est plus local, au niveau de la préfecture de Charente-Maritime, il y a eu ce départ de beaucoup de fonctionnaires, ces fonctionnaires qui sont pas remplacés, et il faut dire qu'à l'heure actuelle ils galèrent. Moi je les vois, hein, quand j'y vais je me rends compte aussi que leur situation elle est pas, voilà. Alors bon, après ils font un métier, ils l'ont choisi, hein. Moi j'aurais franchement pas fait ça, mais en attendant il y a cette réalité là quoi, et du coup tout traîne, et on pourrait simplifier tout ça, ça pourrait être beaucoup plus simple, quoi. Voilà, on pourrait dire qu'un gamin quand il a un contrat de travail, et ben on y va, quoi, on lui fournit un titre de séjour d'un an, et puis après on vérifie au niveau des facteurs d'insertion. Nous on est là sur le terrain pour les mesurer aussi, voilà, on peut. Alors il y a tout un parcours aussi maintenant. Quand tu as ton premier titre de séjour, tu as ce qu'on appelle l'OFI maintenant, l'Office français d'intégration et d'immigration, qui a été créé par notre président il y a 2 ans de ça. Alors en fait, c'est là aussi un parcours où il faut qu'ils apprennent les valeurs de la République française, tu vois. Donc ils ont des stages avec où ils doivent chanter la Marseillaise. On leur apprend des trucs que pas. Je suis sûr qu'un jeune sur 10 français ne connaît même pas ces trucs-là, quoi, tu vois. Mais à eux, par contre, on leur exige de le savoir, quoi, tu vois. Donc on est dans des trucs. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et tous les jours, ça te met la rogne parce que t'as des trucs de justice, quoi. Terrible.
Et la peur de la simplification, c'est le fameux appel d'air, quoi. Si on simplifie, ouais, tout le monde va venir.
Ok, mais on peut en parler des appels d'air, quoi. Je veux dire, c'est pas ça aussi. Ça fait longtemps que moi, depuis que je travaille en social, j'entends cette histoire d'appel d'air. C'est que si tu ouvres plus de places, par exemple, dans des centres d'accueil pour des SDF, ils vont tous venir. Enfin, je veux dire, c'est faux, quoi. Faut qu'on arrête avec ça, quoi. C'est pas l'appel d'air. En l'occurrence, il serait peut-être bénéfique en ce moment parce que l'économie a besoin de cette main d'œuvre, quoi. Tu vois. Donc à la limite, allez-y les gars, faites appel d'air, hein, voilà. Mais ça, le truc d'appel d'air, c'est depuis des années. Dans divers secteurs, j'en entends parler, quoi. Et c'est faux, quoi. J'y crois pas une seconde, quoi. Il y a d'autres pays comme si on regarde autour de nous. Je veux dire, l'Allemagne, ils ont à un moment une politique d'ouverture. Ils ont en Allemagne des étrangers, alors beaucoup plus du côté de la, on va dire, Turquie, Moyen-Orient, Proche-Orient. Mais ils ont accueilli un paquet de migrants et ils sont insérés, quoi. Je veux dire, ils travaillent, les gens. Enfin, à un moment, faut se poser les bonnes questions. Arrêtez de croire que l'appel d'air va faire que les gens vont venir plus. Les gens viendront de toute façon. La réalité, c'est ça. Moi, je vais te dire honnêtement, Kevin, hein, je préférais pas faire mon boulot, en fait. Je préférais qu'il n'existe pas mon boulot.
Je me doute.
Parce que ça voudrait dire que ces jeunes-là, chez eux, ils ont les moyens de se développer d'une manière culturelle, d'une manière pédagogique. Ça veut dire qu'ils auraient accès à de la formation et que chez eux, ils seraient force de production dans leur pays, quoi. Et à ce moment-là, on sortirait l'Afrique. Alors là, je parle de l'Afrique, mais ça peut être d'autres pays, hein, évidemment. Mais c'est comme ça. Non, au lieu de ça, on est en plus, nous, les principaux acteurs de ces migrations, en fait, la France. Depuis, alors la France, mais il y a d'autres pays, hein, mais la France principalement en Afrique noire, parce que oui, effectivement, la France-Afrique, c'est toujours là, quoi. Je veux dire, faut pas. Si ces jeunes viennent travailler chez nous, c'est parce que chez eux, ils n'ont pas la possibilité de le faire, parce que tout est sclérosé, quoi. Tout est mis sous le joug. Alors, quand on voit les situations politiques, quand on voit ce qui se passe en Guinée, quand on voit ce qui se passe au Mali, bon, la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil, il y a quand même une stabilité politique depuis un certain moment. Mais quand tu vois ça, en fait, tout ça, c'est un maintien. Nous, on maintient ça parce que on est là pour exploiter leurs ressources. Ils ont des ressources, et les Chinois en ce moment sont en train de se jeter sur l'Afrique parce qu'il y a des ressources minières absolument incroyables. Ils ont des ressources en termes de main-d'œuvre, de population qui pourraient être. Et ces jeunes-là n'arrivent pas à se former sur leur territoire parce que le système scolaire est pourri, parce qu'on leur donne pas les moyens de le faire. Et moi, je préférerais qu'ils soient chez eux en train d'étudier pour que justement leur pays puisse émerger aussi et avoir une vraie force sur la scène nationale, quoi. Et c'est pas le cas parce que les Bolloré, tous ces mecs-là qui ont des intérêts total, tous ces gars-là qui ont des intérêts en France, c'est des groupes français, hein. C'est Bolloré, il est patron de la moitié des ports, des trois quarts des ports africains, quoi, en fait. Il contrôle tout le commerce africain. L'autre fois, il y a un mec, c'était chez Hanouna, là, qui s'est fait descendre un député parce qu'il a parlé de ça. Ouais. C'est la réalité, putain. C'est la réalité, quoi. Et en fait, on n'a aucun intérêt, enfin, les grands groupes français ont aucun intérêt à ce que la situation s'améliore en Afrique, quoi. Pour eux, ça serait une perte, et pour nous. Enfin voilà, donc du coup, tu vois, c'est quand les gens s'indignent de voir arriver tous ces migrants chez nous, mais on en est à l'origine de leur arrivée, en fait. C'est nous l'origine.
Ah ben d'avoir piller ou s'accaparer les ressources, effectivement, ça aide pas.
Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant ces régions d'honneur, de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensez-vous qu'avec le temps, les négros muterés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanie pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.
Alors piller ou s'accaparer les ressources, effectivement ça aide pas ce que la situation se règle.
Ouais. L'argent qui part pour les actionnaires de nos grosses entreprises à nous, c'est de l'argent qui pourrait être injecté dans leur système éducatif. Ça pourrait être de l'argent qui serait dans le système de santé. Enfin, partout, quoi. Ils sont pas maîtres, c'est malheureux, mais ces pays-là ne sont pas propriétaires de leurs ressources, quoi. Et ça les empêche de se développer. Et tant qu'il y aura ça, eh bien, on continuera à avoir des mecs qui crèvent dans la Méditerranée pour traverser, quoi. Ça, c'est une réalité, quoi. C'est vraiment ça, quoi.
Ouais, parce qu'ils savent pas que leur parcours va être aussi dur en partant. Ils imaginent pas.
Non, non. En plus, non, parce qu'on leur raconte pas tout. Enfin, après, c'est impressionnant de voir comment ils développent. Enfin, j'ai des gamins qui m'ont expliqué que quand même ils avaient vu des vidéos sur les bateaux, comment ils se renversaient. Quand par exemple, enfin, je te donne un exemple. Hein, un gamin qui m'explique que lui, avant de partir, il avait vu des vidéos sur YouTube, parce qu'au moment où les bateaux européens viennent secourir les bateaux de migrants, ce qui se passe, c'est que les gens, parce que souvent ce sont des gens qui n'ont pas appris à nager, qui ont très peur de l'eau, hein, qui ont une appréhension de l'eau qui est vraiment compliquée. Et ben, quand ils voient arriver le bateau, ils jettent tous du même côté pour monter sur le bateau, tu vois, de secours. Et là, c'est à ce moment-là que les bateaux chavirent le plus souvent, en fait. Dans 90% des cas, c'est là que le bateau chavire. Et tous ces gens se retrouvent à l'eau. Lui, il avait vu une vidéo où il avait vu ça. Le mec, le gamin, enfin, il avait récupéré une chambre à air, donc il s'est fait une bouée. Et quand les gens sont arrivés quand le bateau est arrivé pour secourir, tout le monde s'est jeté sur le truc, et lui, il est resté de l'autre côté. Donc, le bateau a viré, les gens sont tombés, et lui, il est resté sur le bateau, et ensuite, il a été secouru, tu vois. Donc, enfin, pour te dire quand même qu'ils partent, mais il y en a certains qui préparent aussi leur ouais. voyage, qui voient aussi certains trucs. C'est hallucinant quand même de voir comment, en fait, tout ça, c'est construit, comment tout ça, ça se passe, quoi, tu vois. Et de voir, alors, les gamins, en général, ils parlent pas trop de leur parcours, quoi. Ils veulent pas parler de leur souffrance. Ils veulent pas que tu t'apitoies. Ils ont un rapport aussi à l'adulte, tu vois, qui est vachement différent. Parce que moi, j'ai des jeunes au début. Quand je leur parle, ils me regardent même pas dans les yeux, quoi, en fait. Parce que chez eux, c'est un signe d'allégeance à l'adulte. Tu ne peux pas regarder un adulte dans les yeux, tu vois. Donc voilà, il y a plein de choses à déconstruire aussi dans la façon de relationner les uns aux autres, tu vois, qu'eux ils connaissent pas. Et du coup, voilà, tu te rends compte qu'il y a, enfin, au niveau culturel, il y a tout un tas de trucs à travailler, mais c'est d'une richesse incroyable. Moi, je m'éclate, hein, je m'éclate parce que ce boulot-là, bon, honnêtement, j'ai la chance de faire un travail où je sais que j'y vais tous les jours avec grand plaisir, quoi, tu vois, parce que je sais que ça va. Enfin, il va se passer un truc, il va y avoir des choses à défendre. Il y a toujours quelque chose, puis c'est tellement changeant, tellement varié. Je peux être dans une réunion avec le département le matin à batailler pour avoir un contrat jeune majeur pour un jeune. L'après-midi, je me retrouve au commissariat pour une audition d'un truc. Là, tu vois, dans l'histoire d'Abib, on a été dans un journal aussi faire voilà, monter l'affaire aussi pour qu'il y ait un article. Il a eu un article dans le Sud-Ouest, par exemple, tu vois. Et le soir, je me retrouve à faire la cuisine avec eux dans leur appartement, tu vois. Et on va parler du conflit israélo-palestinien avec des jeunes maliens, tu vois, qui viennent pourtant de milieux très très modestes, mais qui ont une culture et une éducation, un accès à l'éducation, tu vois. Ça aussi, les gens voient arriver des Noirs, ils disent « Ah, bah, c'est des Noirs !» Non, c'est des gens qui viennent de pays et de culture, tu vois. Et il y a une différence aussi de développement, et tu le vois aussi dans ces jeunes qui arrivent, un jeune de Côte d'Ivoire, un jeune de Guinée, un jeune du Mali, ils sont tous différents dans ce qu'ils ont en termes de ressources. La Côte d'Ivoire est un pays très développé, on a des jeunes qui arrivent qui sont quand même très adaptés déjà, tu vois, là, au mode de vie occidentaux. On a des Maliens qui viennent en général de milieux modestes, un pays pauvre, le Mali, mais qui ont eu un système éducatif quand même qui à un moment a fonctionné, et donc un accès à la culture, tu vois, qui est un peu plus développé. Et puis on a des Guinéens qui, eux, sont beaucoup plus, alors eux viennent vraiment de milieux modestes et qui n'ont pas du tout eu accès à un système scolaire, tu vois. Et suivant les pays, tu le vois aussi ce développement, quoi. Et donc tu travailles pas pareil avec un Malien, un Guinéen, tu vois, c'est pas tous des Noirs, en fait. C'est surtout des gens qui ont une histoire, qui ont une culture. Qu'ont souvent en plus été divisés parce que les frontières qu'on a créées là-bas correspondent pas aussi aux différentes cultures en fait qui sont en place. Et on a des gamins qui sont de pays différents mais qui parlent la même langue. Et c'est d'une grande richesse, quoi. Moi je m'éclate parce que je rencontre des jeunes. Puis tu te dis t'as des gamins qui sont brillants, quoi. Qui sont brillants. Il y a des gamins qui auraient eu la possibilité d'avoir accès à un système scolaire. Ils seraient avocats. Ils seraient ils seraient dans leur pays en train de se battre pour leurs idées là-bas, quoi. Tu vois. C'est ça qui est aussi. Il serait pas en train de finir maçon sur un chantier en France, quoi, tu vois. Ce qui est tout à fait honorable, hein. Au contraire,
j'entends.
Mais bon, pour des salaires ridicules, quoi.
Oui, parce qu'on imagine qu'ils viennent ici chercher l'Eldorado. En fait, ils fuient surtout chez eux parce qu'il n'y a pas moyen de faire différemment et ils risquent gros.
La plupart fuient et la plupart, en fait, c'est là aussi où tu te rends compte. En fait, ils ont un rapport à. En fait, il y a ce qu'on leur a raconté au pays, donc ce qu'ils ont dans la tête. Et quand ils arrivent en France, ils voient la différence, quoi, en fait. Et clairement, très vite, ils se rendent compte que tout est cher, que la vie a un coût aussi, qu'ils vont pas pouvoir envoyer. Alors, souvent, ils ont la pression des familles aussi, hein, parce qu'il y a certains, voilà, ils ont quand même la pression de la famille qui leur dit qu'il faut envoyer de l'argent. Et il faut leur expliquer que non, pour l'instant, je peux pas envoyer de l'argent, tu vois, parce qu'il y a ça, il faut que je. Et puis tout coûte. Enfin, voilà, il y a un idéal qui vient se briser, en fait. Ça vient se briser, en fait. Leur rêve vient de se briser à la réalité, en fait. Qui n'est pas du tout celle qu'on leur avait décrite au pays, quoi.
Écoute, Lionel, merci beaucoup. C'est passionnant. On pourrait rester encore longtemps à discuter. Mais bon, il va falloir s'arrêter quand même.
Bah, il faut m'arrêter. Il faut m'arrêter aussi. Ouais, t'as raison.
Non, mais je t'arrête, mais je te rappellerai.
Ouais. Ok, ça marche. Je te remercie parce que voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à informer les gens de la bonne façon et pas uniquement sur un seul modèle, comme on peut le voir dans les gros médias quoi en fait. Et c'est vrai qu'il faut se battre aussi contre ces idées reçues quoi.
Ouais, mais c'est important de montrer comment ça se passe concrètement, réellement quoi. Bah, beaucoup de problèmes et assez peu de solutions. Enfin, assez peu de solutions politiques. En tout cas, parce que des solutions sociales, des solutions humaines, il y en a. Moi, je tire mon chapeau à toutes les personnes comme Lionel qui dédient leur vie professionnelle au moins, mais ça ne s'arrête jamais au cadre de la profession. On le sent bien, c'est un engagement de tous les jours et dans tout. Donc moi, je tire mon chapeau vraiment à toutes ces personnes comme Lionel, tous ces éducateurs, tous ces accompagnants et toutes ces associations qui donnent de leur temps pour aider les migrants, qu'ils soient mineurs ou pas mineurs. Bon, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous allez sur le site de la CIMAD, je vous en avais parlé sur la première émission, cimad.org. Oui, parce que cet entretien, si vous l'avez attrapé en cours, c'est une deuxième partie d'entretien. Il y en a une première partie déjà de disponible que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc. etc. Vous pouvez directement, autrement, contacter la radio pour leur demander où aller écouter les podcasts. Et puis si jamais vous voulez en savoir un peu plus ou sur un thème un peu différent, une manière de traiter les choses un petit peu différent, il y a quelques années j'avais bossé avec le CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie, pour la région, sur une émission de radio sur la journée de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc si vous allez sur les podcasts du CRLO dans cette journée de lutte, vous écoutez la partie Gers des 4 émissions proposées. Bon, toutes sont hyper intéressantes. Et j'ai travaillé sur celle-là, donc j'essaie de vous vendre celle-là, avec notamment SOS Méditerranée qui en entretien pour cette émission sur cette thématique-là et sur la thématique des migrants. Également Guillaume Lopez qui intervenait dans cette émission et Majid Sharfi, un des chanteurs de Zebda, qui avait écrit un texte quelques semaines auparavant et qui a accepté de le lire pour nous. Avec également des lycéens, des collégiens qui avaient participé à ce projet. Enfin, c'est un gros, gros projet. Et c'est pour ça, l'émission est encore disponible. Moi, je vous invite à aller l'écouter si vous êtes touché de près ou de loin, en tout cas sensible à ce sujet des migrations de population. La musique, aujourd'hui, c'était Kerry James avec Lettre à la République et Les Ogres de Barbac avec Grand-mère. Cette émission est désormais terminée. Moi, je vous souhaite une bonne écoute et une belle journée, plutôt à l'écoute de vos programmes sur votre radio. Et je vous embrasse, enfin, celles qui le veulent bien.